Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et à la une aujourd'hui, ces nouvelles sanctions européennes pour dénoncer la guerre dans l'est de la RDC. Elles frappent 9 personnes et une entreprise. Le Rwanda réagit vivement. Il rompt officiellement ses relations diplomatiques avec la Belgique, vue ici comme l'instigatrice de ces sanctions. Et pendant ce temps, les membres de l'AFC M23, eux, ne sont finalement pas venus à Luanda pour les discussions qui étaient attendues aujourd'hui avec le gouvernement de RDC. On décryptera tout ça ensemble. Les tensions et le risque de nouvelles guerres civiles au Soudan du Sud, la ville de Nassir dans la région du Haut-Nil, à nouveau frappée par des bombardements. Un rapprochement annoncé entre le Congo-Brazzaville et Cuba, les deux pays souhaitent redynamiser leurs relations qui se portaient bien du temps de l'Union soviétique. Et puis, l'inquiétude des proches d'Aristide et Clarisse Sayo, le frère et la sœur du chef rebelle centrafricain Armel Sayo. Ils sont tous deux détenus à Bangui depuis 2 mois, alors qu'ils ne seraient pas impliqués dans la vie politique selon leurs proches. C'était dans les tuyaux et nous vous en parlions hier matin sur RFI, c'est donc fait désormais. À Bruxelles, l'Union européenne a validé de nouvelles sanctions pour dénoncer le soutien du Rwanda à l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Elle vise ces sanctions 9 personnes et une entreprise accusée de contribuer à la poursuite du conflit. Elle vise des hommes en armes, des généraux de l'armée rwandaise ou des ressortissants congolais membres du M23, mais également un homme issu du monde des affaires et de la finance, Pierre Benazé. Cet homme, il s'appelle Francis Kamanzi.
Francis Kamanzi est le directeur de RMB, l'Office rwandais des mines et des hydrocarbures. Selon l'Union européenne, les minerais continuent d'être exploités dans les zones contrôlées par le M23 et font l'objet d'un trafic vers le Rwanda où ils sont mêlés à la production rwandaise. Au centre du collimateur des pays qui voulaient des sanctions économiques figure un protocole d'accord signé entre la Commission européenne et le Rwanda pour permettre la fourniture de ce que les Européens classent parmi les matières premières critiques, par exemple coltan, nickel, cobalt ou tungstène. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, prédit la mort de ce protocole d'accord qu'il désigne sous son acronyme anglais MOU.
C'était important qu'il y ait de la force symbolique dans les sanctions édictées, des responsables d'entreprises, notamment en lien avec les minerais. Vous savez que nous avons plaidé aussi pour qu'il y ait une suspension du MOU avec le Rwanda s'agissant des minerais précieux et rares. Ben, dès lors que la personne qui est un peu le grand coordinateur est lui-même concerné par les sanctions, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de veiller à la mise en œuvre de ce MOU.
La Commission européenne n'a pour l'instant annoncé qu'une révision de son protocole d'accord sur les minerais rares avec le Rwanda, mais les 27 la mettent désormais au pied du mur pour y mettre fin. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Mais après ces nouvelles sanctions européennes, vive réaction du Rwanda qui a donc décidé de rompre officiellement ses relations diplomatiques avec la Belgique, perçue comme un moteur de ces sanctions européennes. Kigali donne 48 heures aux diplomates belges pour quitter le territoire rwandais. En face, Bruxelles dénonce une décision disproportionnée et annonce des mesures réciproques. Des sanctions européennes qui pourrait également expliquer en partie l'échec des discussions inédites qui étaient attendues aujourd'hui à Luanda en Angola. Le gouvernement congolais devait dialoguer avec l'AFC M23, Kigali l'appelait de ses vœux et Kinshasa avait donné son feu vert pour la première fois. Mais la plateforme politico-militaire n'a finalement pas fait le déplacement, Patient Ligodi.
Dès l'annonce de cette réunion, des signaux indiquaient déjà que la date du 18 mars serait compliquée à tenir. Le premier accro, l'AFC M23 affirmait avoir découvert le communiqué de la médiation sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'invitation officielle envoyée par l'Angola est arrivée, mais elle était adressée à Bertrand Bissimwa en tant que président du M23 et non à Corneille Nanga, le coordonnateur de l'AFC. Un détail loin d'être anodin, car dans sa réponse, Bertrand Bissimwa a tenu à clarifier la position du mouvement. Dans une lettre adressée hier au chef de la diplomatie angolaise, il rappelle que le M23 fait partie intégrante de l'AFC et que seule cette dernière est habilitée à mener les négociations directes. Puis, il y a eu les sanctions européennes. Tombées hier, elles visent notamment plusieurs dirigeants de l'AFC M23. Une nouvelle qui, selon le mouvement, n'a fait qu'envenimer la situation. Dans son communiqué, il accuse, je cite, « certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix et de rendre impossibles les discussions ». Alors, cette réunion est-elle seulement reportée? Rien ne semble l'indiquer pour l'instant. Le mouvement affirme que dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. Il annonce donc mettre fin à sa participation au processus.
Patient Ligodi, des discussions qui devaient donc se tenir à Luanda dans le cadre de la médiation menée par l'Angola. Elles devaient intervenir après une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères des communautés d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est hier à Harare au Zimbabwe. La SADC, l'EAC, qui ont rapproché leur processus diplomatique sur la question. Il en ressort une feuille de route vers un cessez-le-feu qui doit encore être validé par un sommet des chefs d'État. La diplomatie, on le voit, semble donc très active, mais peut-être trop, en fait, ou en tout cas, en ordre trop dispersé, c'est l'analyse de Trésor Kibangula, analyste politique au Centre de Recherche Congolais Ebouteli.
Il y a une superposition des médiations. Il y a eu Luanda qui s'est terminée le 15 décembre lorsque le président Kagame n'est pas venu conclure ces discussions alors que le président congolais était là. Avant tout cela, il y a eu Nairobi qui s'est arrêtée avec le fait que les M23 commençaient à avancer. J'ai l'impression que chaque acteur international pousse sa propre approche sans réelle convergence. C'est-à-dire Luanda qui a repris, on appelle initiative angolaise aujourd'hui, n'est pas vraiment la suite des Luanda qui s'était terminée en décembre. Et les M23 aujourd'hui peut profiter de ces flous aussi pour avancer ses pions, tandis que de son côté Kinshasa cherche à éviter de négocier dans une position très très déséquilibrée. Alors chacun essaie de se coller à un processus qui lui est plus ou moins favorable.
L'analyse de Trésor Kibangula en RDC.
RFI à Djouba, 91.4 FM.
Les armes qui parlent à nouveau au Soudan du Sud avec des bombardements aériens menés par l'armée dans la nuit de dimanche à lundi sur la ville de Nassir dans la région du Haut-Nil. Des frappes ayant fait au moins 21 morts selon les autorités locales. Cette ville de Nassir, près de la frontière éthiopienne, elle est depuis mi-février le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée sud-soudanaise fidèle au président Salva Kiir et la White Army, milice Neuer réputée proche du vice-président Riek Machar. Et lors d'une conférence de presse hier, le porte-parole du gouvernement sud-soudanais a également confirmé la présence de troupes ougandaises dans le pays. Florence Mietto, il l'avait dans un premier temps démenti.
S'il a finalement confirmé la présence militaire ougandaise au Soudan du Sud, Michael Makwe n'est pas entré dans les détails.
L'armée ougandaise est actuellement présente à Djouba et au Soudan du Sud. En vertu d'un pacte militaire entre les gouvernements du Soudan du Sud et de l'Ouganda, pacte signé du temps de l'armée de résistance du Seigneur. C'est ce même pacte qui continue.
Datant de 2008, ce traité de coopération militaire a été remis au goût du jour pour justifier une présence très musclée de l'armée ougandaise sur le territoire sud-soudanais. L'heure semble bien à l'escalade et les images des victimes brûlées dans les bombardements nocturnes à Nassir sont insoutenables. Beaucoup d'internautes ont dénoncé des crimes. Mais pour Michael Makwe, aucun civil n'a été touché.
J'en appelle à tous les membres de la White Army qui se disent civils. Ils doivent rentrer chez eux, là où ils gardent leur bétail. Nous conseillons à la White Army de quitter Nassir maintenant. Notre aviation a bombardé Nassir ce matin. Les personnes vulnérables qui sont dans les zones hostile, c'est leur problème. Vous êtes censé vous tenir à l'écart des zones hostiles afin que quand le bombardement a lieu, il touche les combattants. Mais si vous vous trouvez là au milieu, on ne peut rien y faire.
Des bombardements aériens ont également été rapportés par la presse locale dans le comté de Longotchouk, voisin de celui de Nassir, dans la nuit de dimanche à lundi. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Au Soudan voisin, la guerre également et l'armée du général Al-Burhan qui revendique une nouvelle avancée dans la capitale Khartoum. Mais dans la ville voisine d'Omdurman, des tirs d'artillerie imputés au FSR ont fait au moins 10 morts, bilan d'une source médicale auprès de l'agence France-Presse. Une relation qui renvoie à l'âge d'or du marxisme-léninisme, de l'Union soviétique et de l'international communiste. Le Congo-Brazzaville souhaite relancer ses relations avec Cuba, des relations qui étaient au beau fixe dans les années 1960 et 1970. Il s'agit donc aujourd'hui de les raviver et pour cela, Loïcia Martial, le premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a débuté hier soir une visite de 72 heures à Brazzaville.
Le premier ministre cubain est arrivé en compagnie de son épouse par un vol régulier d'Air France. Selon le programme officiel, il doit échanger ce mardi matin avec le premier ministre congolais Anatole Kone Makoso. Il aura ensuite des entrevues avec les dirigeants des deux chambres du Parlement avant de boucler sa tournée des hauts responsables congolais avec le président Denis Sassou Nguesso. L'objectif de cette visite est de redynamiser les relations entre les deux pays très proches à l'époque où ils étaient tous les deux marxistes-léninistes et dans le camp de l'URSS. Leurs liens étaient étroits, au point où le Congo avait servi de base arrière pour l'intervention militaire de Cuba lors de la guerre d'indépendance de l'Angola dans les années 70. Une coopération qui s'était également déclinée sur le plan médical, l'éducation, avant qu'elle ne baisse drastiquement. Nous voulons relancer la coopération entre les deux pays. Selon une source contactée par RFI, cette visite est la première d'un responsable cubain depuis plusieurs décennies. Loïcia Martial, Brazzaville.
L'inquiétude à présent des proches d'Armel Sayo, ce chef rebelle centrafricain arrêté en début d'année au Cameroun, et dans la foulée, son frère et sa sœur Aristide et Clarisse Sayo étaient eux aussi interpellés à Bangui. Depuis, aucun motif n'a été communiqué pour leur arrestation et leur famille. Comme leurs avocats s'en inquiètent, François Mazé, ils affirment qu'aucun des deux ne mène d'activité politique.
Selon son conjoint, Clarisse Sayo est hospitalisée sous garde stricte depuis un mois au centre hospitalier universitaire de Bangui. Si sa tante et une de ses cousines peuvent lui apporter de la nourriture, ses avocats n'ont pas accès à leurs clientes, mais ils espèrent obtenir prochainement une évacuation sanitaire, alors que ses médecins ont dû s'opposer à son retour dans les cellules de l'Office central de répression du banditisme, l'OCRB, où se trouve toujours son frère Aristide. Le 17 janvier dernier, il venait de rendre une visite de courtoisie au directeur général de la police, bienvenu Zokoué, lorsqu'ils ont été arrêtés. Quelques heures plus tôt, c'est leur frère qui avait été appréhendé à l'aéroport de Douala. L'ex-ministre Armel Sayo a monté un nouveau groupe rebelle en mai 2024. Toujours détenu au Cameroun, Bangui voit en lui une menace sérieuse et demande son extradition, sans réussite jusque-là. Selon des membres de la famille, les liens au sein de la fratrie sont distendus depuis qu'Armel Sayo a choisi de reprendre les armes. Et ni Clarisse, ancienne ministre qui gère une épicerie en France, ni Aristide, gendarme en retraite, n'ont actuellement d'activité politique. Aucune garde à vue ni élément d'enquête ne leur ont d'ailleurs été notifiés en deux mois.
Et ajoutons François Mazé que vous avez contacté le procureur de la République à Bangui pour une réaction, mais celui-ci a mis en avant son obligation de réserve pour décliner tout commentaire. Notre matinale continue avec Andréane Mélard.